Bonjour. Bon, comme vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, hein, on devrait pouvoir s'entendre comme ça. Merci pour la présentation. Oui, effectivement, ce petit bouquin a été fait par les étudiants en édition, ici, de l'université. C'est une conférence que j'ai donnée il y a 2 ans, mais ça a eu comme conséquence que je ne pouvais pas refaire la même cette année. Donc, c'est une conférence complètement nouvelle. En fait, presque tout est nouveau. Donc, comme ça, je risque de me planter en direct live, et c'est pas mal. Alors, elle est intitulée « Panique morale ». Mais il y a une deuxième partie sur l'intelligence artificielle où on se demandera justement est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une panique morale ou bien est-ce qu'il y a un réel changement dans la société, un basculement du même ordre et du même type que celui qui a eu lieu il y a maintenant 25 ans autour du passage de l'Internet grand public. Alors, l'idée de panique morale est née il y a 50 ans quand un sociologue anglais, Stanley Cohen, va faire une étude sur 2 groupes de jeunes, 2 bandes rivales qui existaient dans les années 60, qu'on appelait les mods et les rockers. Les rockers étaient tout habillés de cuir et les mods étaient habillés de vestons italiens et pratiquaient les scooters et non pas la moto, ce qui entraînait entre eux des bagarres, des agressions, des choses comme ça, donc des phénomènes de bandes. Comme il en existait en France, on appelait ça les blousons noirs, etc. Et la société anglaise, d'un seul coup, s'est mise à paniquer, à créer une réaction disproportionnée face à ces jeunes qui étaient considérés comme marginaux ou déviants, enfin, qui ne se comportaient pas comme la bonne société british. Donc on a appelé ça des paniques morales. En fait, ça se développe avec 3 éléments essentiels pour qu'il existe une panique morale. D'abord, qu'il y ait un comportement qui menace l'ordre établi, les habitudes, les manières de vivre en fait, des gens, de la société traditionnelle. Une forte médiatisation. Donc il faut que les médias s'en emparent, montrent le sujet en mayonnaise, etc. Et jamais sur l'ordre des faits, mais sur un modèle associatif. Que se passerait-il si, au lieu d'être quelques bandes de jeunes, c'était tous les jeunes qui, d'un seul coup, devenaient soit mode, soit rocker, et que ça soit la guerre mondiale entre groupes à Brighton. Voilà. Donc, ce phénomène-là est nécessaire, et on va voir plus loin le rôle essentiel des médias. Enfin, il faut qu'il y ait des entrepreneurs de morale. C'est un terme qu'on doit à Howard Baker, un grand sociologue qui vient de disparaître, qui désigne par là les gens qui vont édicter des normes, qui vont se trouver les moyens de dire la vie correcte, ça doit être comme ça. Donc c'est les religieux, les politiques, les éditorialistes, enfin bon, toute cette catégorie de gens qui sont donc des entrepreneurs de morale. Ils y jouent leur carrière hein, aussi, leur raison d'être. Donc c'est bien des entrepreneurs, ils prennent le risque, etc. Alors, le rôle essentiel est celui de la démesure des médias. Il s'agit de présenter une question avec démesure. Là, j'ai 2 petits exemples autour du jeu que vous avez dû jouer, vu votre âge, il s'appelle Pokémon Go. Ah, j'en vois qui rigole. Dès que le Pokémon Go est sorti, sans que jamais il y ait eu d'événement, le message a été « Les enfants qui jouent à Pokémon Go deviennent des proies pour les prédateurs sexuels qui vont les traquer, les chercher, les faire rentrer chez eux pour découvrir des Pokémon, etc. etc. » etc. Il n'y a jamais eu, ni avant ni après, mais la police de Miami fait des vidéos et la télévision ici, mais bon, j'arrête. Hein. Le New York Post traite de les Pokémon Go, les enfants sont près des maisons des prédateurs sexuels. Alors, à l'époque, il y avait une série télé qui s'appelait The Predator, enfin une espèce de jeu où il fallait dénoncer un prédateur, etc. Donc c'était à la mode de parler des prédateurs sexuels vis-à-vis des enfants. Ça va servir pour dénoncer les médias sociaux, pour toute une série de paniques morales autour de ce sujet-là. Voilà. Alors, l'enjeu, bien sûr, c'est de susciter des peurs. Pas tant pour les enfants eux-mêmes, qui jouent à Pokémon Go, comme vous, mais pour leurs parents. Voilà. Et donc, bilan, on va revenir à des valeurs. C'est-à-dire, cette nouveauté provoque un bouleversement tel qu'il faut mieux revenir à des valeurs. Alors, en science de l'information, on a tendance, et de la communication, on a tendance en fait à élargir cette notion qui a été créée dans un concept sociologique précis, mais les concepts sont faits pour servir, et donc on élargit la boîte. Grosso modo, l'idée en sciences d'information, c'est à chaque fois qu'il y a une nouveauté technique, il y a des gens qui veulent revenir en arrière, empêcher cette nouveauté technique. Ça a commencé avec Socrate, qui disait que l'écriture allait nous faire perdre la mémoire. C'était au XIXe siècle, quand on a eu un développement des romans, que ça allait, bien sûr, détourner les femmes de leur rôle. Les femmes, les enfants, vous savez, les gens fragiles, quoi. Enfin bon, c'est le thème de Madame Bovary, que vous connaissez bien. Quand le Walkman est apparu, on a dit, ouais, les jeunes, ils vont aller dans la rue avec leur musique dans les oreilles et ça va complètement les isoler, ils ne vont plus être dans le même monde que nous, etc. Quand la bande dessinée s'est développée, on a écrit une loi, la loi de 49, pour imposer aux revues et aux journaux de bande dessinée d'avoir la moitié de textes écrits, parce qu'on ne pouvait pas penser que les petits Mickey étaient de la littérature. Quand le rock est apparu, vous savez très très bien, surtout l'Europe psychédélique, que c'est un danger pour la jeunesse. Enfin bon, voilà. Je ne veux pas parler des jeux vidéo, puisque nous avons eu très récemment un avis hautement autorisé de monsieur notre président de la République, qui a expliqué que c'était à cause des jeux vidéo qu'il y avait des émeutes dans les quartiers. Donc voilà. Alors, les paniques morales, c'est intéressant parce que c'est un bon outil pour essayer de se poser la question, est-ce que nous sommes face à une vraie nouveauté, à quelque chose qui existe, avec des faits qui viennent le confirmer, ou est-ce que nous sommes face à nouveau à une espèce d'immense exagération, une roue qui tourne tout seul, et ainsi de suite. Le rôle de la presse est dans ce cadre-là essentiel. Hein. Bon, vous voyez le selfie, vous savez tous que vous êtes le produit d'une déferlante narcissique. Ça se voit. Donc non, les journaux ont tendance à créer de la peur. En revanche, il ne faut pas appeler panique morale tout ce qui ne nous plaît pas. Il y a toujours ce danger-là, hein, faut pas l'oublier. Alors, le rôle des médias, en général. La fonction des médias, c'est de mettre les choses à l'agenda, c'est-à-dire à l'ordre du jour, faire que tout le monde pense à une chose en même temps, de manière à focaliser l'attention publique et faire en sorte qu'il y ait soit des décisions qui soient prises, soit des événements qui vont focaliser l'attention et qui vont permettre d'avoir des nouveautés législatives. Ça, c'est devenu à la mode depuis une vingtaine d'années. C'est dès qu'il y a un fait divers, on fait une loi. C'est le rôle des médias de mettre les choses à l'agenda. Après, secondairement seulement, de donner de l'information. C'est plus la une des médias qui est importante que l'information qui va être donnée, qui est souvent de très bonne qualité, et parfois même au contraire au titre qui sera donné, parce que le journaliste écrit l'article, mais le titre dépend de la rédaction. Et on sait très bien que les médias sont des entreprises économiques. C'est y compris des entreprises économiques très concentrées, et elles ont besoin d'attirer en permanence leur public. Et il y a une chose qui marche bien, c'est la peur.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort.
La France a peur. C'est resté un symbole, effectivement, de la manière dont les médias participent de la création de cette peur, parce qu'on veut savoir pourquoi la France a peur. Moi, je n'ai pas peur, comment ça se fait que les autres aient peur? Enfin, bon, voilà, donc il y a un espèce d'intérêt en permanence. En est-il de même pour les médias sociaux? Alors, moi, je pense que l'algorithme des médias sociaux fonctionne de la même manière, c'est-à-dire il va sélectionner parmi la masse d'informations, c'est-à-dire la masse des choses qui aura été déposées par vous, vos voisins, vos amis, celles que vous allez voir, que chacun d'entre vous va voir. Donc, c'est un processus dit d'éditorialisation. Je sélectionne ce qui va être mis à l'agenda, non plus avec les médias sociaux, à l'agenda collectif, ce que leur reprochent par exemple les médias, de dire ben, « c'est pas assez collectif là », qui par ailleurs recherchent dans les groupes en permanence des tendances dans les médias sociaux pour pouvoir les réexploiter dans les médias diffusés. Chut. Donc voilà, donc, les médias sociaux mettent des choses en avant, mais au service de qui ? Pas forcément à votre service. On prétend que en laissant vos données, on va vous montrer ce qui va être le plus intéressant pour vous. En réalité, les médias sociaux montrent ce qui provoque le plus d'engagement, c'est-à-dire où vous allez répondre, vous allez critiquer, vous allez tempêter, vous n'allez pas être content, vous allez faire un like, enfin bon. Quel que soit l'engagement, c'est ça qui fait qu'on reste sur le média social, donc qui permet au média social de vendre sa publicité. Et donc, on est dans un phénomène d'éditorialisation au service du média social. Et voilà, on n'est plus dans la logique de base d'espace public des médias sociaux. Qu'est-ce qui marche dans ce cadre-là? Alors, la peur sur Internet directement, média social, un peu moins. Mais par contre, le complotisme, ça, c'est super. À vous expliquer qu'il y a des Illuminati qui dirigent le monde, ça marche à tous les coups. Vous trouvez partout des solutions, des réponses. En fait, développer le cynisme, c'est-à-dire, tout ça, c'est pourri, tout ça, et provoquer des attaques en meute aussi. Donc, ce monde des médias sociaux, l'intérêt qu'ont les médias sociaux à créer de l'engagement et donc à vous faire revenir, venir et revenir, il exploite en fait des bas instincts chez tout un chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'ils deviennent dangereux, en fait, parce qu'ils vont détourner les gens de la vie collective. Le complotisme, très clairement, c'est le dernier allié des pouvoirs en place. Parce que c'est ce qui empêche effectivement, vu que c'est un complot, on n'y peut rien parce qu'il y aura un autre complot derrière, puis bon, bref. Alors, dans cette situation, comment est-ce qu'on fait de la régulation? Là aussi, c'est un problème essentiel qui est posé, c'est-à-dire, on a une situation qui se développe, il y a des gens qui profitent des paniques morales, y compris les médias sociaux, hein, pas seulement les médias organisés, mais comment est-ce qu'on va pouvoir les réguler? Moi, je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il faut s'en prendre à leur modèle économique. Au moment du développement des médias sociaux, parce que c'était nouveau, que donc la sphère politique, elle a toujours besoin de dire « Oula, on va regarder ce qui se passe » avant de prendre une décision, on a accordé à ces plateformes le statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme des éditeurs. Si ça avait été des éditeurs, éditeurs de journal, par exemple, il aurait fallu que le rédacteur en chef soit responsable du contenu. Or, le contenu est versé par tout un chacun, par tous les gens qui peuvent se connecter. Donc, il y a effectivement un risque pour l'éditeur de dire bah, « Je ne peux pas lire les millions de vidéos qui sont téléchargées toutes les minutes, je ne peux pas lire tous les posts qui sont mis sur Twitter, et donc je suis l'hébergeur de la parole de quelqu'un d'autre. » C'était assez crédible tant qu'il n'y avait pas les algorithmes. Mais à partir du moment où il y a les algorithmes qui sélectionnent, ils sélectionnent en promouvant, Et ils promeuvent donc des contenus dangereux, des contenus d'appel au terrorisme, à la violence, du cyberharcèlement, enfin, ça, je m'en parlais tout à l'heure. Mais donc, les médias sociaux font de la promotion de ces choses-là. On ne peut plus tout à fait penser qu'ils ne sont pas éditeurs. Donc, il y a besoin de réfléchir à cette question-là, revenir en arrière, ce qui voudra dire qu'on n'aura plus un média social avec 3 milliards d'utilisateurs comme Facebook. Parce que si on veut se comporter comme un éditeur qui regarde un peu ce qui est publié dans l'édition de son média, il faudra que ce soit des formes plus petites, il faudra créer de l'emploi, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et donc ça veut dire qu'il faudra détruire les monopoles. Il faut quand même se rendre compte que ces grandes plateformes numériques ont une vingtaine d'années, et en 20 ans, elles sont devenues plus riches et plus puissantes que la plupart des États de la planète. Faut mesurer ce qui s'est quand même passé et se demander est-ce que ça peut continuer. Alors, il y a une jeune fille, c'est mon héroïne actuelle, hein, qui s'appelle Lina Khan, qui a fait sa thèse sur pourquoi Amazon est un monopole. Alors, c'est compliqué, hein, parce que dans la logique traditionnelle des monopoles, celle qui a été élaborée dans les années 20 autour des monopoles du pétrole, on disait... Une fois que j'ai une position de monopole, je fais payer plus cher l'utilisateur. Donc, j'augmente les prix, j'ai un surcoût de monopole. Puisque, de toute façon, les gens sont obligés de passer par moi. Chez Amazon, ce n'est pas vrai. Puisque, au contraire, leur monopole est acquis en baissant sans arrêt les prix pour leurs usagers. En pressurant, par contre, les collègues qui mettent qui appartiennent à la marketplace d'Amazon, donc qui vendent... grâce au système commercial d'Amazon, et qui, eux, sont pressurés chaque jour de plus en plus. Mais bon, Amazon fait baisser les prix. Et donc, elle démontre qu'en fait, il faut tenir compte d'un autre aspect, qui est l'impact sur la société. Quand un entrepôt Amazon se crée quelque part, s'il crée 500 emplois, il en détruit 1000. Et donc, c'est là qu'il y a cette contradiction. Et tout le monde ne parle que des 500 qui sont créés, pas des 1000 qui sont détruits. Donc, on a cette logique-là de voir quel est, en fait, l'impact rendu obligatoire auprès de la société et auprès des concurrents. Si on pressure les gens qui appartiennent à la plateforme du marketplace, à partir de ce moment-là, ils vont plus pouvoir faire une concurrence par les prix. Et donc, au final... c'est Amazon qui va capter l'ensemble de l'argent et imposer en fait sa propre loi à ses utilisateurs. Donc Lina Khan a fait sa thèse là-dessus et la semaine dernière, maintenant elle a été nommée à la direction de la Federal Trade, la FTC, enfin c'est l'agence qui gère le commerce aux États-Unis et elle est la cible. Des grandes plateformes de l'Internet. Hein. Elle est la cible des Google, Amazon, Facebook, etc., qui la considèrent comme leur ennemi numéro un. Donc autant dire qu'elle doit bien résister. Et la semaine dernière, sans se démonter, elle a porté plainte contre Amazon au nom de ces arguments-là. C'est parti pour une rude bataille juridique. Et comme c'est mon héroïne, j'espère qu'elle va gagner. On a un peu la même chose qui se passe en Europe. On a eu deux règlements qui ont été adoptés l'année dernière et qui entrent en œuvre maintenant, qui sont le Digital Market Act et le Digital Service Act, qui sont deux règlements qui concernent principalement les grandes plateformes. Donc, grosso modo, ça vise 14 plateformes. Hein. Mais c'est ceux-là qui sont les acteurs majeurs du marché et des services numériques sur Internet. Donc, la logique est un peu la même, c'est-à-dire il faut que ces acteurs prouvent qu'ils se sont réellement donné les moyens de contrôler ce qui est diffusé, qu'ils protègent bien les données privées des usagers. Donc ça, c'est l'ancien règlement avant qui s'appelait le RGPD, le Règlement général de protection des données, et tout ça. Ça a permis à la CNIL en France de demander plus d'un milliard à Amazon. Ah non, à Meta, à Facebook. Hein? Donc là, on n'est plus dans des amendes rigolotes. On est sur des vraies amendes sérieuses, qui restent pas si énormes que ça à l'échelle de ces grands opérateurs, mais qui a tendance à quand même avoir un impact énorme. Donc là aussi, bien comprendre que face à ces entreprises, la régulation, le rôle du politique, les rôles des choix politiques est quelque chose d'absolument essentiel. Parce que sinon, cet auteur de science-fiction, excellent auteur qui s'appelle Cory Doctorow, a utilisé un très beau mot, en anglais c'est « enshittification ». J'ai traduit poliment par « devenir merdique », mais ça veut dire « l'emmerdification des plateformes », qui est un phénomène en quatre temps. Premier temps, la plateforme sert ses usagers. Donc, elle va baisser les prix, elle va rendre service, elle va faire aller beaucoup plus vite la livraison, enfin, sert l'usager. Quand elle a beaucoup d'usagers, elle se tourne vers le client. Et je distingue bien l'usager du client. L'usager, c'est celui qui s'en sert, le client, c'est celui qui paye. Et celui qui paye, c'est celui qui fait de la publicité, c'est celui qui laisse un pourcentage à chaque fois qu'il va sur un, qu'il dépose ses produits sur un marketplace qui sera vendu et Amazon va capter à chaque fois 40 à 50% du marché qui est là. Comme je suis éditeur et que nous avons des livres sur Amazon, parce que dès qu'on les a plus sur Amazon, c'est marqué qu'il n'est plus disponible. C'est embêtant. Donc, à chaque fois qu'on vend un livre, Amazon en prend à peu près la moitié. Ce qui est bien plus que tous les libraires. Donc, ils se tournent vers le client, ils font payer le client. Après, comme ils ont beaucoup d'usagers, ils demandent encore plus au client. C'est-à-dire, non seulement ils font payer, mais maintenant, en plus, on a un abonnement à Amazon, on a... Enfin, sans arrêt, ils réclament quelque chose en plus. Voilà. Donc, c'est la dégringolade. Les médias sociaux mettent de plus en plus de publicité, puisqu'ils ont besoin que les clients viennent, surtout que les clients, ils commencent à se dire « ça marche pas si bien que ça, la publicité sur Amazon, et la publicité sur Facebook, sur les médias sociaux, qui est soi-disant ciblée, mais qui ne l'est en réalité pas du tout, que j'ai aucun contrôle sur le résultat. » Et donc, il y a de plus en plus de publicité. Et bilan, les usagers, eux, disent « attends, ça va, la publicité, je suis noyé, je ne sais plus quand est-ce que c'est... Comme c'est inséré au milieu de mon flux, je ne sais plus ce qui est de l'ordre de la publicité et de l'ordre de l'échange. Enfin bon. Et les usagers se désespèrent par rapport aux médias sociaux. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il semblerait que statistiquement, ça provoque vraiment une espèce de dégoût, d'ennui avec les médias sociaux. Voilà. Ça, c'est vous. Moi, ça va, je suis trop vieux. J'ai réussi à m'en sortir. Mais vous vous rendez compte que le QI de votre génération sera inférieur au mien ? Pour la première fois dans le monde, dans la planète, dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est une panique morale. C'est-à-dire, on a un entrepreneur de morale qui définit ce qui est bien et mal aujourd'hui. C'est le QI qui devient son moteur. Mais le QI... psychologie, tout le monde dit « oulala, ça signifie pas grand-chose ». Et surtout que le QI est adapté à certaines compétences qui étaient peut-être des compétences du passé. Sont-elles toutes les compétences qu'on a aujourd'hui ? Ça se discute, sérieusement. En même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si je pense que c'est une panique morale, puisque globalement, il y avait une vraie étude sociologique qui disait que le niveau monte. Pas le niveau des plus compétents, le niveau moyen de la société. Et ça, c'est important, parce que quand on voit des gens qui disent qu'ils sont tous en train de devenir crétins, c'est qu'avant, ils pensaient qu'à ceux qui allaient déjà à la fac, à ceux qui lisaient beaucoup, mais ils ne pensaient pas à l'immense majorité qui, pareil, regardait la télévision plutôt que de lire, enfin. Voilà. Donc, il y a des réalités en face qui sont la baisse, par exemple, de la lecture imprimée, des choses imprimées. Alors, pour un éditeur de livres, vous comprenez que c'est ennuyeux. Alors, moi, je préférerais que vous lisiez beaucoup plus, parce que je suis sûr que vous achèteriez mes livres, ils sont tellement bons. Voilà. Problème, c'est qu'on a de plus en plus des activités où on est désinséré. on se sert de notre téléphone au milieu d'autres activités pour lesquelles on n'aurait pas forcément le temps ou l'énergie pour ouvrir un livre, etc. Et donc, on a beaucoup d'activités qui sont passées sur Internet. On nous dit qu'on est tout le temps devant un écran, mais les gens, ils lisent aussi le journal, ils accèdent à des informations. Enfin, ils font des... On n'est pas devant l'écran de la même manière. Quand on s'ennuie et qu'on regarde Instagram en passant comme ça au fur et à mesure sans même lire, ou quand on est en train de lire quelque chose, de faire une recherche sur Wikipédia ou je ne sais quoi. Il y a une autre réalité, c'est la baisse du temps de sommeil. Alors, qui est effectivement problématique, notamment chez les ados. Hein, la nuit, occupé à jouer, à échanger, à chatter sur son téléphone, etc., c'est une baisse du temps de sommeil. C'est une réalité. L'autre réalité, c'est que les médias sociaux sont des outils de coordination. Et pour les pouvoirs qui pensent que la jeunesse est une classe dangereuse, qu'elle est prête à faire des émeutes, pour cela, le fait d'avoir un outil de coordination des émeutiers, forcément, et non pas d'information, surtout pas d'information sur les manquements du pouvoir ou les exagérations du pouvoir. Mais voilà, un outil de coordination, à ce moment-là, on va dénoncer l'outil de coordination lui-même. C'est vrai aussi qu'il y a des moments familiaux qui sont plus difficiles quand les ados sortent leur téléphone à table, ou les grands-parents. Alors, face à ça, il faut qu'on regarde quand même le côté soleil de l'affaire. Il y a des nouvelles pratiques. Il y a des tas de nouvelles pratiques. Peut-être que les gens lisent moins, mais ils font beaucoup plus d'images. Et donc, on a une culture de l'image qui s'est développée et qui n'est pas du tout prise en compte par le calcul de QI, par exemple. On donne une capacité d'expression à tout le monde, hein, une forme de liberté d'expression. Et ça, c'est à la portée, y compris des jeunes et des adolescents. Donc ça, c'est vraiment un plus qu'il faudrait mesurer. OK, parfois, l'expression, elle est douteuse. Ah ouais, vous avez été adolescent, hein, moi aussi. Voilà. Donc elle est douteuse, mais pour autant, c'est une capacité d'expression. Et en plus, un des problèmes des médias sociaux, c'est qu'on croit, quand on fait une vanne douteuse, qu'on s'adresse uniquement à ses amis, mais en réalité, le cercle est beaucoup plus large que ça. Et ça peut être rediffusé par d'autres qui ne sont pas membres de votre cercle, et donc le caractère douteux devient un outil contre vous-même. Mais bon. Il y a une place qui est renouvelée à l'information de type news, hein, de type médiatique, mais elle est différente, mais elle existe toujours. Je suppose que vous regardez toujours, d'une manière ou d'une autre, les informations. Vous suivez le monde tel qu'il vit et tel qu'il se représente dans les médias globaux, les médias diffusés. Il y a des accès fabuleux à tous les savoir-faire. Vous avez besoin de réparer quelque chose, vous allez sur YouTube et on vous montre comment faire. Vous ne faites pas ça? Moi, je fais ça tout le temps. Hein. Voilà, quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je sais qu'il y a un tutoriel sur YouTube. Et ça, c'est quand même des éléments nouveaux, des nouvelles pratiques. Les médias sociaux permettent aussi de constituer des groupes de soutien aux gens. Et c'est particulièrement important, par exemple, pour les minorités sexuelles, qui peuvent se retrouver ensemble à s'informer, se protéger, etc. Là aussi, ça crée des paniques morales, bien sûr. Hein, donc... Mais c'est une réalité, une nouvelle pratique. J'ai mis en illustration un des premiers livres qui parlait de ces nouvelles pratiques que j'ai eu l'honneur et l'avantage de publier. Elle en a fait un deuxième, c'est qu'elle a continué à enquêter Anne Cordier avec les jeunes, à les écouter. Parce que ce qui est un des éléments des paniques morales, c'est qu'on n'écoute pas les personnes concernées, puisque c'est les entrepreneurs de morale qui sont ceux qui sont le plus importants. Donc, on n'écoute pas la personne concernée. Et elle a fait un très beau travail parce que pendant 12 ans, elle a suivi des jeunes. Elle a, tous les ans, ou plusieurs fois par an des fois, elle allait discuter avec eux, voir comment ils évoluaient, comment leurs pratiques évoluaient. Et effectivement, les ados de 11 ans, quand ils avaient 20 ans, c'était plus pareil, quoi. ils avaient aussi fini avec un certain nombre de pratiques qui pouvaient être, non pas dangereuses, mais qui n'étaient pas les meilleures pratiques du monde vis-à-vis de l'information. Ben bon, ils avaient changé. Ils étaient devenus beaucoup plus attachés, à, par exemple, à vérifier l'information. Voilà. La conclusion, c'est qu'il faut développer l'éducation aux médias et à l'information. Mais là, on a un problème. La majeure partie des cours d'EMI, éducation aux médias et à l'information, est basée sur la peur. Au lieu de partir des pratiques des gens en disant « voilà, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sers? Ah oui, c'est une bonne idée, pourquoi on pourrait améliorer ?» Enfin bon, tout partir des pratiques, on distille le fait qu'il y a une peur. Et la peur principale est de reproduire une fausse nouvelle. Surtout à l'école. Imaginez que vous alliez lu un article de Wikipédia, ah ça, l'ennemi sacré de l'école, enfin, l'ancien ennemi sacré parce que le nouveau s'appelle l'intelligence artificielle, on va y revenir, mais donc l'ennemi sacré de l'école, Wikipédia, avait fait pour vous tout le boulot et vous vous retrouvez à répéter une erreur parce qu'il y aurait des erreurs dans Wikipédia. On a même connu des profs qui mettaient volontairement des erreurs pour piéger les élèves. Bon. Donc non, l'éducation aux médias, ça doit partir des usages des médias. Ils sont là, ils sont tout autour de nous, c'est un monde pervasif, et donc il faut qu'on parte de ces usages-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut nier les problèmes. Alors aussi, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas bien de dire c'est panique morale à chaque fois que c'est les autres, que ce qu'on n'est pas d'accord avec. Non, il y a des vrais problèmes. Le principal étant le cyberharcèlement. On a là une volonté de régulation qui vient du gouvernement et qui est, à mon avis, tout à fait souhaitable. Tout à fait souhaitable. On ne peut pas accepter que certains, par méchanceté ou par bêtise, détruisent la vie des autres. Il y a ceux qui sont poussés au suicide, mais enfin, il y a tous ceux qui ont honte de leur corps, qui osent plus se regarder dans la glace, qui sont pas bien, qui marchent tout penaud à l'école, qui ne se font plus d'amis. Enfin, il y a des gens détruits quand même. Donc les droits de l'homme passent avant les bénéfices des médias sociaux. Et il faut effectivement condamner non seulement les harceleurs, mais se poser la question des témoins silencieux, des témoins qui ne vont pas aider la personne harcelée. Et dans ce cadre-là, une des mesures qui a été proposée là, qui est de faire des cours sur l'empathie, c'est quoi l'empathie, ça signifie quoi, qu'est-ce que ça veut développer en nous, de développer l'empathie, ça me semble une excellente mesure, c'est celle qui était proposée par Serge Tisseron, un psychiatre qui travaille beaucoup sur l'impact des écrans, c'est d'avoir des cours sur l'empathie, des pièces de théâtre, des choses comme ça, où on va développer cette logique de l'empathie. Accessoirement, on s'est aperçu que la lecture de romans développait l'empathie. C'est-à-dire, on se met dans la peau d'un personnage. Et donc, on va avoir des idées, des choses comme ça, au point que dans les universités des États-Unis, dans les facs de médecine, on fait des cours de littérature pour faire en sorte que les futurs médecins cultivent leur empathie par la lecture de romans. Intéressant, ça. Alors, l'autre problème, c'est les attaques et le hameçonnage, hein, donc toutes les arnaques. Moi, j'aurais tendance à dire, attendez, ces fameux médias sociaux-là, ils ne sont pas un peu responsables du phishing, du hameçonnage ou tout ça? Vous savez, quand vous recevez un mail un peu douteux, il suffit des fois de regarder le lien, et pour s'apercevoir que ça ne va pas du tout chez Crédit Agricole, mais chez « Je suis là au Nigeria pour t'arnaquer ». D'accord ? C'est complètement différent. Sauf que maintenant, la plupart des navigateurs masquent ça. Les lecteurs de courrier, à part le logiciel LibThunderbird, cachent le lien. Donc ça incite les gens à cliquer. Alors, bien sûr, Google dit « Non, mais moi, il n'y a pas d'arnaque chez moi parce que j'ai tout corrigé avant, j'ai empêché. » Oui, bien sûr. Donc, on a là un problème de complicité dans l'interface, Hein, c'est ce qu'on appelle les dark patterns, des choses qui ne sont pas claires dans l'interface et qui vont empêcher les gens d'apprendre. Là aussi, quand on regarde un URL, on apprend quelque chose sur le fonctionnement. D'où ça vient, quelle est l'autorité qui a distribué une information. Enfin, il y a plein de choses à apprendre rien qu'à regarder l'URL. Mais quand il vous est masqué, ben vous n'apprenez pas, donc vous devenez suiviste. Le problème du sexisme sur Internet, les atteintes aux personnes, hein, principalement les attaques contre les femmes, les homosexuels et les transgenres. Donc ça, c'est une réalité. Alors, il y a les attaques directes, personnelles, mais il y a aussi les messages globaux qui créent ce qu'on appelle le virilisme ou le masculinisme aujourd'hui, qui créent par exemple un mépris global des femmes et des minorités sexuelles. Il y a la porno-divulgation, c'est-à-dire je demande à mon petit copain ou ma petite amie de me donner des photos un peu dénudées et puis je me venge en la redistribuant sur Internet. D'accord ? Donc c'est des réalités, quoi. Bon, on n'en fait pas des paniques morales, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions de régulation, oser s'affronter politiquement, faire de la politique par rapport à ces pratiques-là et donc contre celui qui est le vecteur de ces pratiques, c'est-à-dire les médias sociaux aujourd'hui principalement. Ensuite, il faut quand même qu'on mette les choses en contexte. Pourquoi on passe autant de temps sur les médias sociaux ? Mais c'est quoi les autres endroits pour socialiser ? Est-ce qu'on a une culture de la chambre, comme on disait chez les ados, ou est-ce qu'on est enfermé dans sa chambre ? Le sport. Ben attends, moi, quand j'étais jeune dans mon village, on faisait tous du sport parce qu'il n'y avait que ça à faire. Mais maintenant, le sport, c'est le sport d'élite. Il n'y a plus cette logique du sport juste de se bouger, quoi, voilà, d'être ensemble et de rigoler. D'accord ? Donc, les lieux de sociabilité ont diminué, très largement diminué. Et alors, c'est encore pire aux États-Unis. Aux États-Unis, des parents qui laissent leur enfant aller tout seul à l'école se retrouvent interpellés par la police. Faut mesurer où ça nous mène, cette idée de l'enfermement individuel. Voilà. Donc les médias sociaux sont aussi une échappatoire à cet enfermement individuel. Comme disait Dana Boyle, les jeunes ne sont pas accros à leur mobile, mais à leurs amis. Et comme c'est leur moyen de connexion, ils s'en servent. Voilà. Ah, on va aborder les choses sérieuses. Alors, est-ce que ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui est une panique morale ? L'IA anxiété, qu'un journal très sérieux, une revue comme Philosophie Magazine, parle de l'IA anxiété. Vous êtes anxieux ? Vous êtes anxieuse ? Ça vous fait peur ? Le monde est en train de s'écrouler, n'est-ce pas ? À cause de l'IA, parce qu'il y a peut-être d'autres raisons, mais ça, celle-là, on n'en parle pas. D'accord ? Donc, surtout depuis la mise en ligne de ChatGPT, il n'y a pas un jour sans qu'on parle de l'IA. Dans les journaux, dans les télés, etc. Donc, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde de l'IA. Alors, on est obligé de se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, il y a tous les jours quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est en train de revivre un basculement de l'économie du numérique ? Comme on a connu dans les années 2000, c'est-à-dire un nouveau moteur économique qui est en train d'émerger et il ne faudrait pas rater le train. Et ainsi, ça comme anxiété, comme IA anxiété, c'est l'idée qu'on va rater le train. Alors, on dit aussi que l'IA va tout changer, notamment qu'elle va changer le monde du travail, de l'évaluation scolaire, développer les fake news à qui mieux, et pratiquer l'usage démesuré des données personnelles. Même si je pense qu'on a une forme nouvelle de panique morale, c'est vrai, il y a des vraies questions qui méritent d'être posées. Mais est-ce qu'il faut les poser sur la base de la panique ? Ou est-ce qu'il faut les poser sur la base de la régulation, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va régler. Voilà. Alors d'abord, parce que c'est quand même un cours, c'est pas seulement une conférence, on va passer aux définitions. Dans la presse, on a souvent tendance à traiter d'intelligence artificielle à peu près tout ce qui est de l'informatique un peu évoluée. Bon. Disons plus modestement, on parle de l'intelligence artificielle quand il s'agit de simuler. Le verbe simuler est très important. Simuler l'intelligence humaine, c'est-à-dire apprendre à prédire des choses. On va essayer de penser au futur. Vous savez que une des caractéristiques qui est associée aux humains en général, c'est leur capacité de prédiction. Des grands singes peuvent prendre un bâton pour aller chasser quand ils voient la proie. Les hommes prennent le bâton, même s'ils ne voient pas la proie, et ils disent « on va chasser ». D'accord ? C'est un peu une des barrières, en tout cas traditionnelles, parce qu'elles sont remises en cause, j'y reviendrai, mais c'est une des barrières comme ça qui définit un peu l'humain par sa capacité de projection dans le futur. À partir du moment où des machines vont le faire, donc voilà. Et ensuite, quand on simule des activités humaines, on va se retrouver avec la capacité à prendre des décisions à la place d'eux. Ça, c'est quand même quelque chose de dangereux pour notre liberté individuelle, d'avoir un appareil technique créé et exploité par un tiers, par une de ces grandes plateformes dont on a vu qu'elles étaient complètement désintéressées et qu'elles ne pensaient qu'à notre bien personnel. Donc quand ces grandes plateformes vont gérer des intelligences qui vont agir à notre place, remplir notre frigidaire parce que nous n'aurions plus de lait, ben oui, mais bon, on a décidé d'arrêter le lait. C'est dommage. Voilà, donc on est... Bon. Et enfin, percevoir le monde environnant. Alors là aussi, dans une des forces de l'intelligence artificielle, c'est la perception. C'est qu'une partie seulement, bien sûr, de nos capacités humaines, mais nous avons des tas de capteurs. Les yeux, l'odorat, tous nos sens nous servent de percevoir le monde environnant et nous le percevons non pas directement, nous ne sommes pas un capteur chimique, mais un capteur intelligent, c'est-à-dire ce que nous voyons est réinterprété par notre cerveau, ce que nous sentons est réinterprété par nos cerveaux. Nous sommes capables de mettre un mot dessus, éventuellement de se dire « oh là là, ça sent le gaz, c'est dangereux ». Enfin bon, toute une série, vous savez bien sûr que le gaz ne sent pas. Qu'on rajoute du produit pour qu'ils sentent. Voilà. Bon. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est une des définitions. C'est l'IA en général. Mais on voit apparaître, et c'est ça qui aujourd'hui crée un peu l'émulsion, c'est l'intelligence artificielle générative. Elle est générative parce qu'elle va créer des choses qui auparavant étaient créées principalement par les humains, c'est-à-dire des textes, des images, des sons et même des vidéos. Voilà. Elle crée des contenus. Elle crée des contenus qui ne sont pas par ordre de la recopie. Elle ne recopie pas des contenus, elle rajoute quelque chose. Par exemple, c'est des systèmes qui font des résumés de texte. Créer un résumé, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, quoi. Donc là, on est dans un système d'intelligence artificielle. On a bien sûr, vous avez tous expérimenté, je pense, des IA génératives comme ChatGPT, hein, donc qui sont capables de produire des textes à partir de quelques mots que vous lui suggérez. Même chose avec les images. On va y revenir, c'est des démonstrations et des choses comme ça. Voilà. Alors, en fait, les intelligences artificielles génératives le font à partir d'un phénomène où elles ont été entraînées auparavant. Et c'est ça qui est vraiment l'élément important. On a des données d'entraînement et les IA génératives vont pomper à droite et à gauche dans leurs données d'entraînement pour générer le texte, l'image ou les choses comme ça. Alors, je vais y revenir. GPT, non, non. Ce n'est pas la blague qu'on vous a fait quand vous étiez au CP de nous expliquer les consonnes d'Égypte. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire « Generative Pre-trained Transformer ». C'est donc un transformeur de vecteurs. Alors, moi, je vais y revenir. C'est après, j'ai une explication un peu plus technique après. Toujours dans la logique des définitions, c'est une machine pour le Parlement européen qui appelle à reproduire les comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et elle distingue des types de l'IA logicielle et l'IA incarnée, c'est-à-dire qui va se retrouver à l'intérieur d'un objet technique, par exemple une voiture. Ah, la voiture autonome. Alors, si vous regardez bien l'article qui date de 2015, sacrément bouleversé la voiture autonome, elle nous a. Oh là là, tout est changé. Vous voyez bien tous les jours. Donc, là aussi, il faut se méfier de ce monde qui prévoit. Et c'est une réalité de l'intelligence artificielle depuis les années 60. Il dit, tous les gens qui ont travaillé dans ce domaine-là ont dit « Oui, oui, d'ici Noël, j'aurai inventé un truc qui va être capable de produire du texte, de résumer, de parler, de comprendre le langage, de, tout ça. » Donc on est dans cette science des promesses qui est devenue un peu dangereuse. Accessoirement, personne ne se pose la question, vous croyez vraiment qu'une voiture autonome avec bardée d'électronique, de lidar, de terres rares donc, qui sont utilisées pour ça, de caméras, pour transporter très peu de monde, avec des batteries qui pèsent très très lourd, vous croyez que tout ça c'est la transition écologique ? Pas moi. Voilà. Donc là aussi, la voiture autonome, c'est un mythe complet d'intelligence artificielle qui ne vise en fait qu'à reproduire le monde existant, c'est-à-dire développer les routes, construire des autoroutes, enfin faire tout ce qui se passe. Alors, simuler et prédire, c'est aussi être capable de commencer par reconnaître des schémas à l'intérieur des données. Toute la phase d'entraînement consiste à dire à la machine quels sont les schémas qui se répètent, les phrases, sujet, verbe, complément. Voilà, on a un schéma. Ce schéma se répète très souvent en français. En anglais, l'adjectif est avant le nom et ainsi de suite. En français, c'est souvent le contraire. Enfin, bon. Voilà, on a des schémas. Et la machine doit les reconnaître. Pour reconnaître ces schémas, elle va analyser un énorme lot de données. Plus le lot de données d'analyse est important, et plus on a des chances qu'elle détecte les schémas et qu'elle les enregistre à l'intérieur de sa mémoire, si on peut appeler ça une mémoire parce qu'elle n'est pas fixe, de ses propres schémas qu'elle va réexploiter ensuite quand elle va être dans l'ordre de la production de nouveaux textes dans la génération. Le problème, c'est que pour arriver à ces grands lots de données, il faut qu'ils soient étiquetés. Il faut qu'on soit capable de dire à la machine, je te présente une photo, est-ce que c'est un chat ou pas un chat ? Mais pour apprendre à la machine, il va falloir que quelqu'un avant ait dit, oui, c'est un chat. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les travailleurs du clic, c'est-à-dire des gens sous-payés, qui font des boulots sans grand intérêt, qui consistent à étiqueter les lots d'entraînement. Comme c'est un gros boulot et que ces gens n'ont pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas, les grandes plateformes, ben on le fait faire dans les pays en voie de développement, pour qui les gens le font ça le soir, chez eux, en plus de leur travail, parce que c'est dur de vivre. Et quand on a un bon plan comme ça, au Kenya, il n'y a pas de secret, on accepte. Le sous-paiement de OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT. Donc on a aujourd'hui un néo-data-colonialisme. On ne va plus chercher du pétrole, mais du pétrole gris, quoi. Alors, après, ça, c'est tout l'entraînement supervisé, c'est-à-dire le lot d'entraînement est déjà étiqueté. Quelque part, on sait ce qu'il y a dedans, et donc on va pouvoir faire que la machine apprenne. Enfin, je vais vous dire un peu après comment. Voilà. Puis, on se dit, ben, le mieux serait de faire un entraînement non supervisé. c'est-à-dire où la machine s'auto-entraîne. Ça, c'est possible. C'est possible quand l'univers, le monde est clos. Par exemple, le jeu de Go. On avait, avant ces méthodes d'intelligence artificielle, on était incapable de jouer au Go contre des bons joueurs. Moi, ils me battaient tout le temps, mais ça, c'est autre chose. Contre des bons joueurs, parce que y a trop de... Il y a un graphe qui est beaucoup trop élevé pour savoir quel est le prochain coup qu'il faut jouer. Alors, il est réduit par des espèces de règles qu'on appelle des joseki en Go, mais bon, ça ne fait que réduire à un espace qui reste toujours trop important pour que ce soit calculé, à la différence des échecs, par exemple. L'échec, avec la force brute du calcul de tous les cas possibles, on peut déterminer quel est le meilleur. Au Go, ce n'était pas possible. Donc, il fallait une autre méthode qui consistait à analyser des parties et dire « Ah, ce coup-là était à coup gagnant, puis ce coup-là est à coup gagnant, et, etc. » Et ce qui est arrivé à ce que AlphaGo a réussi comme ça à battre le champion du monde de Go, coréen. Il y a d'ailleurs une série Netflix là-dessus. Hein, voilà. Donc, c'est uniquement dans les règles finies. Sauf si nos travailleurs du flic, qui comme tous les travailleurs du flic, du clic, qui comme tous les travailleurs sont pas bêtes, comment maximiser mon temps passé? Eh bien, moi, je vais demander à une IA de répondre à ma place. Et donc, on risque d'avoir un phénomène d'auto-entraînement des IA parce que les IA ont déjà numéroté, ont déjà étiqueté elles-mêmes, c'est-à-dire les patterns, les schémas qu'elles ont reconnus dans le lot de données. Alors, comment on en est arrivé là? Quelle heure il est? 56. Eh bien, comment on en est arrivé là? Je vais vous le raconter après une petite pause.